grand titre de ce dimanche 4 juin, deux attaques terroristes à Londres hier samedi soir. Le bilan de victimes n'est pas connu pour le moment. Il y a plusieurs morts selon la police britannique. Des kamikazes ciblent des funérailles à Kaboul en Afghanistan. Le secrétaire d'État américain déclare que les efforts de réduire les émissions de gaz à effet de serre continueront. Aux Français de l'étranger en Australie, pour la 11e circonscription, n'oubliez pas d'aller voter ce dimanche. Vous avez jusqu'à 18h. Bonne chance. Une attaque terroriste s'est déroulée sur le London Bridge dans le centre de Londres et une deuxième attaque terroriste à Borough Market. On écoute les précisions de Christophe Paget pour Radio France Internationale.
Eh bien, vers 22h heure locale, une camionnette blanche a heurté 5 ou 6 piétons sur le London Bridge. Une journaliste de la BBC qui se trouvait là par hasard raconte que le véhicule roulait à au moins 80 km/h et qu'il s'est dirigé sciemment vers des piétons. Plusieurs témoins parlent d'un ou de plusieurs hommes armés de couteaux descendant de la camionnette accidentée pour poignarder des piétons. Plusieurs stations de métro ont été fermées dans les environs du pont. Des hôtels ont été évacués. La zone a été bouclée. La police procède à l'explosion contrôlée de colis suspects. Autre attaque à Borough Market, à quelques centaines de mètres de là à peine, des coups de couteau dans des restaurants et des bars. On ne sait pas encore si les deux incidents sont liés. Des policiers armés ont répliqué. Des coups de feu ont été tirés, affirme la police sur Twitter. La police qui cherche et 3 suspects qui pourraient être armés. Enfin, troisième intervention de la police à 3 km de là, dans le quartier de Vauxhall, là aussi pour des coups de couteau qui ne sont pas, selon la police, liés à ce qui s'est passé au London Bridge. En tout cas, il y a au moins plus d'un mort, selon la police, et 20 personnes qui ont été hospitalisées. D'autres ont été traitées sur place pour des blessures moins graves. La première ministre Theresa May et le maire de Londres, Sadiq Khan, sont évidemment tenus au courant de la situation, minute par minute. Sadiq Khan qui parle d'actes barbares, délibérés et lâches. Theresa May a indiqué que l'enquête progressait rapidement. Elle dirigera dans quelques heures une réunion du comité de crise du gouvernement à 4 jours, vous l'avez dit, des élections législatives. Et alors que c'est la 3e attaque qui frappe le pays en moins de 3 mois. Face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais aux côtés du Royaume-Uni, a tweeté le président français Emmanuel Macron. Le président américain Donald Trump a proposé l'aide des États-Unis au Royaume-Uni.
Le reportage de Christophe Paget pour RFI. On écoute maintenant le témoignage de la journaliste Holly Jones de la BBC qui était sur le pont de Londres à l'heure du premier incident. Elle parle de 3 ressortissants français derrière elle.
There were 3 French people behind me. I know this because I was walking quite fast. So I overtook them as I was walking. And then I kind of turned back as I saw the van hit the people behind me. And after the van hit, there was only 1 casualty on the floor. There was a French lady, and she kept asking me where her boyfriend was. She didn't speak any English, and obviously I didn't know where. My concern was her and making sure that she was okay.
La journaliste Holly Jones de la BBC. Le sénateur australien Sam Dastyari était à Londres dans un restaurant lors de l'incident. On l'écoute sur Sky News.
You could hear the screams, you could hear the people running down the street, you could see them running past you and one or two of them obviously quite injured. They locked down the kind of region, the borough region, the city was locked down, and they placed all the kind of restaurateurs in the secure places that they could possibly find, tend to be in the upstairs of the kind of different restaurants, and kept us there for about 40-45 minutes, and then the police kind of evacuated restaurant by restaurant.
Le sénateur australien Sam Dastyari. Une série d'explosions à Kaboul en Afghanistan lors d'une funéraille. Il y a au moins 18 morts. Selon la police, il y avait 3 kamikazes parmi les gens qui assistaient aux funérailles. Reportage Sonia Ghezali pour RFI.
En fin d'après-midi, Abdul Hakim ferme le portail vert du cimetière Badambar dans le nord de Kaboul. Il est garde de sécurité. Il se trouvait à son poste au moment des funérailles du fils d'un sénateur afghan tué dans la manifestation anti-gouvernementale de vendredi.
3000 personnes étaient là. Il y avait 600 personnalités politiques et publiques. Tout le monde priait quand il y a eu 3 explosions, puis chacun s'est mis à courir pour se sauver.
3 kamikazes se sont fait exploser au milieu de la foule, dans laquelle se trouvaient le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, les ministres des Affaires étrangères et de la Justice, qui s'en sortent indemnes.
J'ai vu beaucoup de blessés aux mains et aux jambes. Les personnes les plus gravement touchées ont été emmenées à l'hôpital en ambulance.
Devant le cimetière, des dizaines d'hommes rassemblés crient leur colère contre le gouvernement. Mort au président Ashraf Ghani, scandent-ils, avant de se disperser. Le chef de l'État déclare que le pays est attaqué, appelant la population à être forte et unie. Une partie de la capitale est toujours paralysée par des barrages de police. La tension n'est pas redescendue depuis l'attentat au camion piégé de mercredi.
Sonia Ghezali pour RFI. Le Premier ministre australien a effectué une visite officielle de 3 jours à Singapour pour renforcer les liens diplomatiques, mais aussi pour trouver un moyen de contrer la montée de la militarisation de la Chine dans la région. Le secrétaire américain de la Défense, Jim Mattis, était aussi à Singapour. Le Premier ministre australien ne veut pas dévoiler ce qui a été discuté avec les Américains sur la Chine.
I won't go into the discussions that we had about military matters with General Mattis, but I can assure you that we stay in the closest of contact with our ally on all of these issues.
Voilà, c'était Malcolm Turnbull. La ministre australienne de la Défense, Marissa Payne, était aussi à Singapour et la question des combattants qui revenaient dans leur pays, soit en Indonésie, aux Philippines, à Singapour et en Australie, après avoir combattu aux côtés de Daesh, a été discutée. On écoute Marissa Payne.
We don't want them to return to this region. Let me be very clear about that. But in the event that they do, we have to use the information that we have and information sharing, the intelligence that we have, intelligence sharing, the legislative mechanisms that we have available to us to ensure that they are dealt with to the full extent of the law.
Marissa Payne. Une enquête menée par la presse Fairfax et le programme Four Corners de l'ABC révèle des inquiétudes par les services de renseignement en Australie sur les efforts du Parti communiste chinois d'exercer leur influence en Australie. La souveraineté de l'Australie est menacée selon les officiels australiens. Pékin serait impliqué sur plusieurs fronts en espionnant des associations estudiantines, des groupes communautaires et les médias chinois en Australie. Le gouvernement du Queensland déclare devoir faire voter des lois sur ses objectifs pour améliorer la qualité de l'eau sur le récif de la Grande Barrière de Corail pour la protéger. Un rapport de l'UNESCO montre que le gouvernement du Queensland est loin derrière ses objectifs. On écoute Richard Legg qui est de World Wildlife Fund. Il est sur l'ABC.
As we know, people travel from all around the world. You know, the Great Barrier Reef is a bucket list destination. If the reef was placed on that in danger list, it's inevitable that the tourism industry would suffer a result.
Richard Legg de World Wildlife Fund. Le ministre de l'Environnement du Queensland déclare que l'opposition bloque le projet de loi en question. On écoute Stephen Miles, il est sur l'ABC.
I think they're the stakes that we're playing with you. The global community have said, well done Queensland, you're doing well so far, but there are two areas where we need to do better. We're working on both of those things, but it seems unlikely we'll be able to get them through the current parliament.
Voilà, Stephen Miles, le ministre de l'Environnement du Queensland. Eric Abbott, ancien ministre du gouvernement Abbott, déclare que le Premier ministre, Malcolm Turnbull, risque une révolte des backbenchers de la coalition par rapport aux plans énergétiques si ce dernier voulait introduire des lois sur des objectifs de faible émission pour gérer la crise de l'énergie en Australie. Ce n'est qu'une taxe carbone déguisée, déclare Eric Abetz sur Sky News.
What's that what they say about a duck? If it looks like a duck, walks like a duck, quacks like a duck, chances are it is a duck. But look, I will await my final assessment to see what's actually in the report.
Voilà le sénateur Eric Abetz. Michael Bloomberg, l'envoyé spécial des Nations Unies sur les villes et le changement climatique, déclare que les Américains continueront à lutter contre le changement climatique malgré la décision du président Donald Trump sur le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. L'ancien maire de New York était à Paris.
In the United States, emission levels are determined far more by cities, states, and businesses than they are by our federal government. Over the past decade, the United States has led the world on emission reductions. Our federal government has very little to do with it.
Michael Bloomberg, l'envoyé spécial des Nations Unies sur les villes et le changement climatique. Le Premier ministre indien était à l'Élysée hier pour un déjeuner de travail avec le président français. Reportage Christophe Paget pour RFI.
Le fait que vous ayez gagné a encouragé le monde entier. Les relations avec la France sont très importantes pour nous.
Les premiers mots de Narendra Modi à Emmanuel Macron ont donné le ton pour une défense et illustration d'un partenariat dont les deux hommes ont vanté la force. Avec en exemple la lutte contre le changement climatique, moins de deux jours après la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. Narendra Modi.
Cet accord de Paris est notre patrimoine commun. Il peut protéger les générations futures. Le partenariat indo-français sur les technologies durables est un domaine dans lequel nous avons décidé de coopérer. La France et l'Inde ont également donné naissance ensemble à l'Alliance solaire internationale. Et je suis très heureux de constater que le président s'engage sur cette alliance.
Les deux hommes ont aussi souligné le partenariat indo-français dans le domaine de la sécurité, avec la vente d'avions Rafale, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Emmanuel Macron.
Nous avons longuement parlé de ce sujet absolument essentiel. Nous allons poursuivre le travail en matière de renseignement, de coopération militaire. Je souhaite que l'Inde puisse savoir que la France est à ses côtés dans la lutte contre le terrorisme qu'elle a à subir.
Enfin, le Premier ministre indien a souhaité un nouvel élan pour une Union européenne forte et puissante qui puisse assurer un équilibre au niveau international.
Christophe Paget pour RFI, le président de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila déclare dans un entretien au magazine Der Spiegel, je cite, « Je n'ai rien promis du tout concernant la tenue d'une élection présidentielle cette année. Joseph Kabila devait initialement quitter le pouvoir fin 2016. » Reportage Lisa Léa Westerhoff pour RFI.
Bien qu'un engagement d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année a été pris dans un accord signé le 31 décembre dernier par des cadres de la majorité de l'opposition, eh bien aujourd'hui Joseph Kabila répond « Je n'ai rien promis du tout » avant d'ajouter « Je souhaite organiser des élections aussi vite que possible ». À plusieurs reprises dans cet entretien au Spiegel, le journaliste allemand tente d'obtenir une promesse sur la date de la présidentielle ou une confirmation que cela pourrait prendre plus de temps pour avoir ces élections. À chaque fois, le président congolais botte en touche. C'est à la commission électorale de répondre à cette question de date, dit-il, ou encore organiser des élections pourrait prendre plus de temps ou non. Joseph Kabila qui rappelle à chaque fois tout de même que le Congo est un pays gigantesque avec peu d'infrastructures et de mettre en garde, si vous organisez des élections chaotiques, vous aurez le chaos. Nous voulons des élections parfaites, pas seulement des élections, affirme encore le président congolais dans ce long entretien avec le magazine allemand, expliquant que l'enjeu pour lui est d'enregistrer tous les nouveaux majeurs, que cet enrôlement est en cours et qu'il marche bien, mais jamais de date pour les élections.
Lisa Léa Westerhoff pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 22 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 13, Hobart 15, Canberra 14, Sydney 20, Brisbane 23, Cairns 26, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 21 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 4 juin. Deux attaques terroristes à Londres hier. Le bilan de victimes n'est pas connu pour le moment. Il y a plusieurs morts, une vingtaine de personnes hospitalisées selon la police britannique. Le secrétaire d'État américain déclare que les efforts de réduire les émissions de gaz à effet de serre continueront. Fin de ce journal et merci de votre fidélité.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench